Il a vécu la guerre froide. Il a vécu la crise de mai 68, la crise aussi de la tension États-Unis-URSS et toutes les conséquences qu'ils en sont. Donc il faut garder ça à l'esprit en lisant ce texte de la joie de Paul VI. Vous comprenez ? C'est un texte qui est mûri au cœur même d'une souffrance. Et s'il nous parle de la joie, c'est donc qu'il a découvert un secret. Et s'il écrit cette exhortation apostolique sur la joie, c'est pour faire partager à tous les hommes le secret de la joie chrétienne. Alors, il le dira lui-même, c'est un secret tout particulier qui jaillit au cœur même des épreuves et des souffrances. Il commence ce texte par une parole de saint Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Soyez dans la joie, dans le Seigneur. Cet appel à la joie. Et saint Thomas d'Aquin dit à un moment donné, mais comment ça se fait-il que dans l'Écriture sainte, notamment dans les épîtres de saint Paul, à plusieurs reprises, on a comme un commandement, soyez dans la joie, réjouissez-vous. Pas possible de commander la joie, pense-t-on habituellement. Eh bien, saint Thomas d'Aquin dit que justement, la joie est un des fruits de la charité, et que la charité est un commandement, et que Dieu peut nous commander également la joie dans la mesure où elle découle de la charité. C'est donc au cœur même d'un acte de volonté que je vais rentrer dans la dynamique de l'amour, et de la paix et de la joie qui en sont les fruits. Donc, il y a une décision de la joie, quelque part. On en parlera tout à l'heure. Mais déjà, en entendant ce texte de saint Paul, on peut se dire, ou il est fou, ou il ne connaît pas la réalité humaine, le pauvre saint Paul, en disant ça aux Philippiens, ou bien alors il a un secret. Toute cette lettre nous introduit dans le secret de la vie chrétienne. Et ça, je crois qu'il faut bien le voir. Donc, il a introduit son texte avec la joie chrétienne, la joie de l'Esprit-Saint. C'est une sorte d'hymne à la joie divine que nous voudrions entonner, afin qu'il éveille un écho dans le monde entier et d'abord dans l'Église, que la joie soit répandue dans les cœurs avec l'amour dont elle est le fruit par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il cite l'Épître aux Romains comme ça. Il y a une première approche de la joie, c'est à travers toute l'œuvre de la création. Dieu vit que cela était bon. Et finalement, il y a une sorte de joie naturelle, spontanée, qui peut naître au cœur de l'homme devant l'émerveillement de la création, devant la bonté, la beauté des œuvres de Dieu. Finalement, dit-il, cette joie, on voit bien, ne se confond pas avec le plaisir. C'est une des premières distinctions qu'il fait. Et finalement, notre monde matérialiste, notre monde de technique, nous offre beaucoup de plaisir. Il croit et veut pouvoir combler le cœur de l'homme par des plaisirs. Mais 1 milliard de plaisirs ne feront jamais une seule joie. Et ça, je crois que c'est une des confusions les plus grandes. Le plaisir, c'est le repos de l'instinct sensible dans la possession de ce qu'il a. Si on a mangé une bonne glace, ben voilà, bu un bon verre de vin, voilà, pas 3, mais 1, voilà, ah, très bien. Voilà, on avait très faim, et ben on a mangé quelque chose. C'est un repos du corps, de l'affectivité, dans la possession de ce qui le titillait et l'attirait. Voilà. Puis d'un coup, le chat, quand il a mangé sa pâtée et qu'il est là au coin du feu, il atteint le sommet du plaisir. Alors là, c'est fantastique. Plus que ça, c'est pas possible. Voilà. Et là, on a cette nature animale en nous qui fait que ben, y a un certain repos et c'est pas mauvais en soi. Ce plaisir, il est rattaché à certains actes comme une finalité, mais ce n'est pas ça qui va combler. Le cœur de l'homme est fait pour bien plus grand que ça. Et vouloir croire que c'est par la multiplication des plaisirs que l'on va pouvoir satisfaire le cœur de l'homme, eh bien c'est l'erreur la plus tragique de notre temps peut-être. Et c'est une illusion totale dans laquelle beaucoup de gens s'y perdent sans le savoir. Ils se rendent bien compte qu'au cœur de cette multiplication des plaisirs, il y a une insatisfaction profonde de leur cœur. Comme si ça hurlait. Alors ils croient que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de plaisir, ou des plaisirs pas assez diversifiés, ou pas assez de montées d'adrénaline, et que donc il faut augmenter les montées d'adrénaline, la diversité des plaisirs et la multiplication des expériences. Mais finalement, on arrive toujours dans un vide, dans un creux, parce que ça rejoindra que la partie sensible de notre être, mais pas le fond de l'âme. Cette multiplication des plaisirs nous fait oublier que la joie vient d'ailleurs, qu'elle est spirituelle, et que dans l'ennui, la morosité, la tristesse et le désespoir du monde actuel, il y a finalement un vide qui est là. Alors quand on regarde le monde, finalement aussi, on voit ces misères de l'humanité, on voit les souffrances, on voit la famine, on voit les épreuves personnelles que les gens peuvent rencontrer dans leur vie, comme ça, et la maladie, la mort qui frappe, comme ça. Et donc, a-t-on le droit, honnêtement, de parler de la joie au cœur de tout ça? Et c'est là qu'il dit, cette situation du monde, situation personnelle ne saurait cependant nous interdire de parler de la joie, d'espérer de la joie. Car c'est au cœur de leur détresse que nos contemporains ont besoin de connaître la joie et d'entendre son chant. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que l'épreuve même du temps, l'épreuve même des difficultés de la vie nous oblige à rappeler qu'au cœur de cela, il y a un trésor comme caché. Hein, que, c'est-à-dire qu'au milieu même de la bogue de châtaigne, il y a la châtaigne dedans, qu'il s'agit d'extraire. C'est assez bouleversant de voir comme Dieu se manifeste souvent dans les épines, vous savez. Hein, lorsque Isaac prend le bois du sacrifice et qu'il le transporte sur son dos, il demande à son père où est l'agneau de sacrifice. C'est lui-même que Dieu avait demandé de sacrifier, mais l'ange arrête le bras d'Abraham, et voilà que, pris dans un buisson d'épines, un bélier se trouve juste à côté. Et c'est ce bélier qui va être sacrifié, en préfiguration du Christ. Hein, il y a comme un signe particulier. Dans le livre des rois, à un moment donné, il y a les arbres qui se décident entre eux en disant « Mais qui va être le roi parmi nous ?» Alors on pense au cèdre du Liban, au sycomore, enfin il y a tous les arbres qui sont là, puis aucun ne convient, si ce n'est le buisson d'épines, qui est choisi pour être le roi. Dans toute l'Ancien Testament, il y a comme une préfiguration de ce que doit être un mystère rattaché au buisson d'épines, comme si à travers le buisson d'épines, quelque chose de mystérieux et de grand va nous être révélé. Alors on a la figure déjà à travers Moïse, qui voit dans le désert ce buisson d'épines qui brûle sans se consumer, et qui est une théophanie, une manifestation de Dieu. Voilà que Dieu parle, je suis celui qui suis. Première révélation de l'amour de Dieu à travers le prophète et le libérateur Moïse, figure du Christ, vrai libérateur de son peuple, dans le buisson d'épines.